le sujet, souffrir de l'astral, je voudrais relancer cette deuxième partie avec la fin de la première où on parlait des idoles et des modèles. Et d'abord, dans le développement d'un individu, et surtout quand on vit le processus d'une certaine inconscience sociale, les gens ont tendance à souffrir énormément de la pauvreté de leur vie par manque d'identité, j'imagine, et s'accrochent à des modèles et vont effectivement souffrir de ne pas accéder au mode de vie de ces modèles. Dans quelle mesure une société comme les États-Unis, qui ont créé un American Dream, dans quelle mesure on peut dire que ça fait un bien au développement d'un individu de poursuivre des modèles de ce genre-là? L'American Dream et puis les idoles politiques, économiques, musicales. Dans quelle mesure c'est valable?
Si on parle de l'homme inconscient, l'homme qui n'a pas d'identité, parce que pour moi, un homme inconscient, c'est un être qui n'a pas d'identité intégrale. Pour l'homme inconscient, les idoles, c'est un support moral. Dans ce sens que, n'ayant pas d'identité, il peut facilement vivre à travers l'identité d'un autre. Dans ce sens-là, c'est valable. Autrement dit, dans le sens de l'évolution de la conscience, dans le sens de l'astralisation de la conscience, dans le sens de la perte de l'identité de l'homme, c'est valable. Autrement dit, dans la mesure où l'homme poursuit une évolution purement psychologique. Mais à partir du moment où l'homme commence à poursuivre une évolution psychique, c'est-à-dire qu'il commence à entrer en harmonie avec son être intérieur, cette fabrication-là sociale, qui est souvent monopolistique, retarde l'évolution de l'homme par rapport à la formation des centres de gravité. Ce qui manque le plus chez l'être humain de l'évolution, ce sont des centres de gravité. Un centre de gravité, c'est un centre d'énergie. L'homme en a plusieurs dans son corps, mais c'est un centre d'énergie qui devient une fenêtre d'entrée pour sa lumière. Alors, si ces centres d'énergie-là ne sont pas ouverts à sa propre lumière, à sa propre énergie, ils sont mis en vibration par d'autres forces qui sont extérieures à lui-même et l'empêchent, jusqu'à sa mort, l'empêchent de se découvrir lui-même. Donc, il va découvrir les idoles, il va s'instruire de l'historique de ces idoles-là, et en faisant ça, il va automatiquement, par le fait même, perdre de la conscience et perdre de la conscience. Donc, sur le plan social, le phénomène de dans le fond, c'est une forme d'idolâtrie. Sur le plan social, ça a son bon côté évolutif, mais sur le plan psychique individuel, c'est anti-homme. Ça ne veut pas dire que l'être humain conscient ne va pas apprécier telle personne qui a atteint un certain niveau d'action sociale. Parce que ces gens-là travaillent très fort, ces gens-là nous donnent quelque chose, dans la mesure où ça peut être valable, utile. Mais l'homme ne peut pas assujettir sa propre identité à l'identité d'un autre personnage sur la Terre.
Quand une économie, je pense à la société américaine surtout, quand une structure économique est presque fondée sur des idoles, ou du moins monopolise des grands courants économiques en relation avec des idoles, si une démarche, disons, individuelle s'amorcerait, est-ce qu'il n'y aurait pas un certain danger de voir la structure économique ébranlée par le fait de cette force que l'individu prendrait?
Avant qu'il y ait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'individus sur la Terre qui poursuivent un mouvement de dépendance par rapport à ces forces astrales-là, ça va être très long. D'ailleurs, ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Donc ça va durer longtemps. Présentement, c'est dans un mouvement plutôt ascensionnel que descendant.
Donc, les individus qui font une démarche
mais
personnelle...
Sur le plan individuel, les individus qui font une démarche personnelle, qui vont en arriver un jour à développer leur centre de gravité, ne pourront pas vivre cette illusion fabriquée-là. Ils vont vivre par rapport à eux-mêmes. Mais ça ne va pas les empêcher d'aller voir des films de ces gens-là, qui sont des idoles pour les masses, mais qui sont pour eux simplement des personnages qui créent quelque chose pour leur relaxation astrale temporaire. Le problème avec les idoles, c'est que le gros problème avec ces gens-là, ou avec ce phénomène-là, c'est que l'individu perd son identité. Et la machine sociale, la machine économique, la machine politique qui met en marche, en branle toute cette énergie-là, elle est très puissante et elle fait partie de la civilisation moderne et elle fait aussi partie des lois astrales sur la Terre. L'astral utilise les idoles pour empêcher l'homme de rentrer dans son identité. Je donne un exemple, si on retourne dans les années 60. Il y a un film qui vient de sortir, là, comment est-ce qu'on appelle ça? Là? Ça s'appelle The Doors. Ouais. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont vu ce film-là? Bon. Là, on a un recul de 20-25 ans. Aujourd'hui, on est capable de regarder ce qui s'est passé dans les années 60 au niveau du mouvement hippie et de voir le grand décalage par rapport à l'irréalité qu'on connaît aujourd'hui, mais à la réalité que ces gens-là professaient dans ce temps-là. C'est un film qui était très bien fait, d'ailleurs. Et quand on regarde Jim Morrison, là, on voit jusqu'à quel point ce type-là était extrêmement astralisé. D'abord, il y avait la drogue, il y avait son contact occulte avec les Indiens, puis on voit l'influence sur les masses, on voit la grande astralisation de ce mouvement-là. Mais les gens, il y a des gens dans ce temps-là, dans les années 60, qui n'ont pas été victimes de cet astral-là. Et ces gens-là qui ont vécu une certaine indépendance d'esprit par rapport à ça, se sont posé beaucoup de questions. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être même dans la salle, qui, dans les années 60, se disaient, ben, comment ça se fait que je ne suis pas comme les autres? Et c'est très difficile pour un être humain qui n'est pas encore conscient, mais qui a une certaine sensibilité intérieure, de réaliser qu'il n'est pas comme les autres, qu'il ne va pas par là, qu'il s'en va par là quand les autres s'en vont par là. C'est très difficile de soutenir cette solitude-là. Mais souvent, ces êtres-là ont suffisamment de leur propre lumière pour pouvoir le faire.
On en vient donc à un point, se conscientiser, c'est se marginaliser.
C'est intéressant cette question-là. Se conscientiser, c'est en arriver à être suffisamment intelligent pour que la marginalisation ne paraisse plus. C'est ça, se conscientiser. Un être conscient, là, tu ne peux plus dire qu'il est marginal. Il est capable de fonctionner comme tout le monde, mais où sa marginalité existe, c'est dans son être intérieur. Mais par rapport au monde, ou par rapport à ce que le monde et la société créent, ça ne paraît pas la marginalité. Ça, c'est un signe de grand équilibre entre ses forces intérieures puis le monde extérieur. Sans ça, mais tu deviens marginal, tu deviens seul, tu deviens blasé, tu deviens déprimé. Parce que l'homme, la société, crée des grandes choses. La science crée des grandes choses. Par contre, la science crée aussi, fait des choses qui, si elle était consciente, n'existeraient pas. Donc, le rôle de l'homme conscient, c'est d'aller chercher dans le monde les choses que la science ou l'homme inconscient, avec sa grande sensibilité, peut faire. Si tu te coupes de ça, qu'est-ce qui reste dans la vie? Là, tu vas te lancer dans l'occulte, tu vas te lancer dans l'ésotérique, tu vas te faire astraliser énormément, puis éventuellement, tu vas finir la grande bâtisse. Donc, pour revenir à la définition, je vais la reprendre, cette définition-là, parce qu'elle est bonne. Être conscient, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit, là, mais je vais le redire d'une autre façon. Être conscient, c'est être capable de ne pas faire paraître ta marginalité. Ça, c'est ça, être conscient.
Mais ça établit que quand même être conscient, c'est être marginal.
Être conscient, c'est être capable de ne pas faire paraître ta marginalité.
Et on peut pas.
Je défie une personne qui me connaît ou qui me rencontre, qui ne me connaît pas, de pouvoir dire que je suis marginal. Je suis pas marginal.
Disons que si on dit pas que vous êtes marginal, on peut dire que vous êtes original.
OK. Vous pouvez changer la marginalité par de l'originalité, mais il faut que ce soit de l'originalité créative. Si c'est pas de l'originalité créative, à ce moment-là, ça devient de la marginalité.
Je vais être obligé d'aller dans votre dictionnaire pour savoir qu'est-ce que vous entendez par être marginal.
Être marginal, c'est être dissatisfait d'un statu quo et vouloir illusoirement le briser ou en sortir pour créer une autre condition. Le mouvement hippie, c'est un exemple. Fait que tu regardes les hippies des années 60 et aujourd'hui, ils sont rendus PDG de compagnie.
Ouais.
Voilà, tu sais?
Ah, ouais.
Ce que vous appelez les yuppies, vous autres.
Ouais.
J'en connais, moi, qui étais la grande barbe des années 60, puis là, ils sont rendus PDG de compagnie.
Effectivement.
Bon, autrement dit, ils ont mûri. Puis ceux qui n'ont pas mûri, mais aujourd'hui, sont probablement sur la bouteille, puis sur la drogue, puis sont probablement du street people. Il n'y a rien à faire avec eux autres, ils sont devenus totalement végétatifs. Donc, la marginalité, ça fait partie d'une certaine sensibilité intérieure, mais un jour, faut que ça soit rééquilibré. Parce que être marginal, c'est percevoir, être en désaccord avec un certain statu quo, mais ça doit être un désaccord qui ne te rend pas toi-même déséquilibré. À ce moment-là, tu deviens original, mais tu n'es pas marginal. Donc, la marginalité, éventuellement, faut que l'homme en sorte. Autrement dit, si le statu quo ne plaît pas, mais qu'il fasse quelque chose, mais il faut pas qu'il bascule dans ce que je pourrais appeler l'aliénation totale.
Mm-hmm.
Quand on est étudiant, on est marginal. C'est connu dans le monde. Les étudiants sont toujours marginaux. Igual, ça fait partie du fait qu'ils n'ont pas de responsabilité. Quand tu n'as pas de responsabilité, c'est le fun de gueuler, ça t'en donne une. Puis quand tu commences à rentrer dans le monde, puis tu travailles, puis tu vois comment est-ce que c'est difficile de développer une société, de faire grandir une société, quand tu commences à connaître les contraintes, quand tu commences à réaliser comment c'est difficile de changer les choses à l'intérieur du gouvernement, pour toutes sortes de raisons. Là, tu commences à mûrir, tu commences à moins te prendre au sérieux. Donc, dans la marginalité, le phénomène de la marginalité, c'est que les gens qui deviennent marginaux se prennent au sérieux au début. Puis avec le temps, ils se prennent moins au sérieux, puis ils se prennent moins au sérieux, puis ils se prennent moins au sérieux. C'est comme quand tu as 20 ans, tu te prends au sérieux. Quand tu as 60, tu te prends un petit peu moins au sérieux. Quand tu as 40, tu te prends un petit peu moins au sérieux. Ça fait partie de l'évolution psychologique de l'ego. Mais si on le regarde sur le plan de l'évolution psychique de l'être, éventuellement, tu ne peux plus être marginal. Parce que être marginal, ça ne te suffit plus. Tu as besoin d'être créatif. Donc, si l'homme est inconscient et qu'il n'est pas créatif, puis qu'il devient marginal pour l'être plus, éventuellement, il va devenir original, mais créatif original. Donc, à ce moment-là, la marginalité va se déplacer. Puis il va devenir original, si tu veux, mais créatif. À ce moment-là, mais il va se fondre avec la société, mais il ne va jamais perdre son identité. Parce qu'un être qui est marginal n'est pas encore dans son identité. Il s'en recherche une identité. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est marginal. Autrement dit, être marginal, c'est être à la recherche d'une identité. Quand tu vas trouver ton identité, à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'être marginal, parce que tu ne peux plus être menacé par ce qui est extérieur. Tu ne peux plus être enseveli par les formes astrales que crée une civilisation inconsciente. Tu vas à ce moment-là chercher des choses dans la civilisation qui sont valables, qui sont utiles à différents niveaux, puis tu vas être bien avec ça. Pourquoi? Parce que tu as une identité qui devient de plus en plus inébranlable.
L'individu qui se conscientise, récente différence. Si on ne peut pas encadrer cette différence-là dans des patterns là, qui sont d'ordre formel, qui sont social, où est-ce qu'on va situer la différence? Où est-ce qu'elle se vit, la différence?
La différence se vit dans ton esprit. C'est ta façon de voir les choses. Je vous donne un exemple. Bon, on va prendre mon cas, là, parce que je suis une personne publique. Si vous me posez une question, par exemple, sur l'Église, la fonction de l'Église dans le monde, la fonction de l'Église catholique dans le monde, on devrait avoir de l'avortement dans le monde, on ne devrait pas avoir d'avortement dans le monde, et c'est bon. Il y a différents plans par rapport à ces questions-là où je pourrais me situer. Je pourrais me situer par rapport à un plan occulte, totalement occulte, qui fait partie de ma conscience, puis expliquer ma vision ou comment je vois le phénomène de l'avortement dans le monde. Ou je peux me placer par rapport à la masse humaine, la responsabilité de l'Église sur le plan psychologique des grandes masses humaines. Si j'étais intelligent, si je suis conscient, au lieu de me placer par rapport à mon plan personnel, conscientisé en fusion, je vais me placer par rapport à la grande masse sociale. À ce moment-là, ça va m'empêcher de troubler l'esprit de la masse sociale. Si je veux aller plus occultement dans le phénomène de l'avortement, ou si je veux aller plus occultement dans le phénomène de l'euthanasie, qui sont des grandes questions aujourd'hui, à ce moment-là, je vais rassembler des gens dans un espace fermé, et je vais parler à ces gens-là de ma vision de cette question philosophique-là. Mais je ne vais pas troubler socialement. Donc, à la télévision, je répondrai d'une certaine façon, et en privé, je répondrai d'une autre façon, et les deux façons se rejoindraient parce que je pourrais donner les raisons sociales, économiques, politiques, psychologiques, spirituelles, religieuses, de la vue de l'Église par rapport à l'avortement dans certains secteurs de la planète, par exemple en Amérique du Sud, aux États-Unis ou en Europe. Tandis qu'en privé, je pourrais me contenter de simplement expliquer le phénomène de l'euthanasie ou de l'avortement à des individus sans affecter la masse en général. Donc, un homme qui est conscient, qui est original dans sa créativité, ne va pas vivre sa créativité par rapport à la dominante de cette créativité-là. Il va lui-même placer la dominante de la créativité au niveau où elle va être le plus utile. Donc, c'est plus utile si je suis à la télévision et que je parle à des masses humaines de l'avortement en fonction de l'intelligence que, par exemple, l'Église peut avoir ou le gouvernement peut avoir dans un cadre restrictif, évolutif de ce phénomène-là. Si, par contre, on vient me voir et on me dit, mais M. Bernard, on aimerait ça que vous me parliez de l'avortement ou de l'euthanasie ou de whatever, d'une façon plus occulte, qui ne troublera pas les masses sociales, parce que quand tu parles à la télévision, tu as automatiquement une responsabilité sociale. Un être humain ne peut pas se permettre, dans un système ouvert comme la télévision, qui rentre dans tous les foyers, chez des gens qui ne t'ont pas demandé ton opinion, qui ont leur opinion. Donc, tu n'as pas le droit de rentrer dans la vie privée des gens puis arriver avec des éclaboussures d'opinion parce que tu es trouble. À ce moment-là, tu vas rassembler des gens qui veulent ton opinion. Donc, il y a des gens qui vont dire, « Ben Bernard, nous ferais-tu une conférence sur l'euthanasie? Qu'est-ce que c'est la relation entre le monde de la mort puis la responsabilité psychologique et éthique de la mort d'un point de vue médical, vu d'un point de vue d'un membre d'une famille? » Là, à ce moment-là, ben, je vais faire une séance fermée où je ne troublerai pas l'esprit du public à travers un écran de télévision qui rentre chez des millions de personnes qui ne m'ont pas demandé mon opinion. Mais s'il y a des gens qui me demandent mon opinion, à ce moment-là, je vais leur donner, mais en circuit fermé. Alors, c'est ça le discernement et c'est ça la lucidité. Et c'est probablement une des raisons pour laquelle j'ai pu pendant des années demeurer à l'abri des invectives. Parce que je respecte la conscience de la masse
et à la fois je me donne la capacité d'aller plus loin dans l'ouverture de la conscience des individus, mais qu'ils me demandent mon opinion. À ce moment-là, il y a l'équilibre. Donc à ce moment-là, tu n'es plus marginal. C'est ça de la créativité originale. Sans ça, tu utilises une entrée dans la vie des gens. Quand je parle de la vie des gens, là, je parle des gens, des bons catholiques qui vont à l'église depuis des années de temps, puis qui ont leur foi. Tu peux pas arriver dans le monde avec tes idées de Bernard de Montréal puis troubler la vie de ces gens-là. Parce qu'à ce moment-là, c'est un manque de responsabilité. Puis le faire et troubler la vie de ces gens-là, ça ne les aiderait pas. Même si les idées sont intéressantes, parce qu'ils ne sont pas psychiquement et psychologiquement capables de supporter un choc comme ça, à des convictions qui, pour eux, sont profondes. Donc, de l'intelligence créative, c'est très, très créatif. Ce n'est pas psychologique, ce n'est pas égoïque, égocentrique, ce n'est pas basé sur les appétits de la personnalité. C'est en fonction du pouvoir de l'homme de diriger dans différents secteurs de la société des courants d'énergie qui sont utiles à ces différents secteurs-là. Ça demande beaucoup de lucidité.
C'est très anonyme aussi.
C'est très anonyme. C'est pour ça que je dis à ce moment-là, tu n'es plus une personne marginale. Tu es une personne créative, original, dans le sens que tu es capable de donner naissance à des idées profondément nouvelles, mais sans bouleverser chez des gens qui t'ont pas demandé ton opinion, leurs idées, parce que ces gens-là sont pas prêts.
On connaît souvent chez des gens qui sont dans un processus de conscience un intérêt à parler de ce qu'ils absorbent à des gens, évidemment, qui, eux, ne l'ont pas encore, comme vous dites, demandé. Et effectivement, ils s'amassent avec des chocs qu'ils ont donnés à des gens, des chocs qu'ils ne sont pas capables de rebalancer.
C'est ça.
Est-ce que c'est un processus normal?
C'est
quelque chose qu'il faudrait vraiment arrêter chez nous.
Non, c'est un processus normal, parce que quand on commence à découvrir les dessous du psychisme, quand on commence à découvrir les mécanismes du subconscient, quand on commence à connaître les lois cachées, occultes de l'être humain, ça crée tellement une ouverture de nos centres que l'homme vit comme une décharge d'énergie, puis il n'est pas, au début, capable de la contrôler. On dira que ça, c'est plus fort que lui, il faut qu'il en parle. Puis, alors, vous mettez là-dedans sa personnalité, son insécurité, qui n'a pas été éliminée, sa sécurité égoïque qui n'est pas affranchie de l'insécurité psychologique de son ego. À ce moment-là, la personne parle, la personne peut créer des troubles dans son entourage, elle peut en souffrir aussi, puis c'est au cours des années qu'elle va se tasser, puis un jour, elle va réaliser que ces affaires-là, c'est pour elle, c'est pas pour le monde, c'est pas l'homme conscient n'a pas la responsabilité de prosélytiser le monde. L'évangélisation puis la prosélytisation, ça fait partie de l'inconscient spirituel de l'humanité. Il y a des gens qui le font, puis ça fait partie de leur job, ça fait partie de leur expérience. Puis d'ailleurs, c'est encadré dans des grands systèmes thématiques, ça. Mais quand tu commences à tomber dans les lois occultes de la conscience humaine, qui sont tellement profondes, à en bouleverser même l'imaginaire humain, tu peux pas parler de ça à gauche et à droite. Mais c'est le temps, c'est avec le temps qu'on en arrive à la contrôler, ça. C'est pour ça que les gens qui s'instruisent de l'occultisme ou des sciences occultes ou à n'importe quel niveau, doivent prendre conscience dès le début de l'importance de garder ça pour eux autres, de le regarder, parce que c'est au cours des années qu'ils vont voir à travers ce qu'ils pensent, ce qu'ils voient aujourd'hui. Tu viens pas intelligent de même. C'est avec les années que ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste, puis ça s'ajuste. Puis éventuellement, quand tu vois clair, puis tu as l'esprit clair, tu n'es même plus intéressé à ce moment-là de parler à gauche et à droite. Parce que tu n'as subi plus cette pression-là. Tu as contrôle cette pression.
Dans un processus de conscientisation, Bernard, on vit des fois avec des intimes, des gens en tout cas très près de nous, soit au niveau couple, soit au niveau familial, soit même au niveau travail, et qui ne comprennent pas la même chose que nous autres, ça nous fait souffrir. On voudrait communiquer, on voudrait aller plus loin dans la communication, ce qui nous parle ne nous intéresse plus, on voudrait parler d'autres choses, les autres ne sont pas capables. Et souvent, les gens veulent parler aux gens de ce qu'ils savent, justement pour les amener à ça, pour non pas les évangéliser, mais pour simplement établir une vibration commune. Est-ce que c'est possible?
C'est possible, mais ça dépend comment on le fait. Ça dépend comment on le fait. Moi, j'ai une mère qui a 78 ans. Mm-hmm. C'est une très bonne catholique, puis elle va à l'église tous les dimanches, puis toute la patente. Bon, OK. Puis, des fois, on a des petites sorties ensemble, puis... Là, je l'approche, parce qu'elle va mourir dans quelques années. Bon, OK. Mais je peux pas y arriver avec mes gros cadeaux. Fait que je vais dire, sais-tu que j'ai pensé à quelque chose. D'abord, on m'a dit que j'ai pensé. Bon. Si je commence à dire, j'ai eu une communication, on m'a l'effrayé. Alors, on m'a dit, j'ai pensé à quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses de ça? Là, je peux parler de la réincarnation, je peux parler de la mort, je peux parler de son chum qui est mort dernièrement, ainsi de suite. Bon. Mais je ne crée pas de choc. Et pourquoi est-ce que je ne crée pas de choc? Parce que je n'ai rien à prouver. Ce qui fait que les gens créent des chocs quand ils parlent, c'est parce qu'ils ont quelque chose à prouver. Si les gens là n'avaient rien à prouver, rien à prouver, autrement dit, qu'ils étaient sécurs dans ce qu'ils savent, ils n'ont pas besoin de l'opinion des autres, à ce moment-là, ils pourraient parler. Puis dire des choses intéressantes, créatives, et ne pas créer de choc dans l'environnement. Mais l'être humain est encore très, très fragile, autrement dit, il y a encore une très grande mémoire de son ignorance. Elle est pas loin, l'ignorance. Là. Elle est juste en arrière, là, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Là. Il était ignorant, il y a 10 ans, ou il y a 2 mois. Là, fait qu'elle n'est pas loin, l'ignorance. Puis automatiquement, c'est comme s'il n'est pas cicatrisé encore, là, son ignorance. Puis il a besoin de sentir que l'autre l'écoute. Puis c'est ça qui fait que les gens, quand ils parlent de choses qu'ils savent ou qu'ils ressentent ou qu'ils ont entendu parler, ne sont pas capables de communiquer cette vibration-là d'une façon objective, avec un certain rythme, en respectant le rythme d'absorption de l'autre. Il y a trop d'ego, il y a trop d'empressement. Et c'est ça qui fait que la communication est difficile. Sinon, les gens l'écouteraient. Moi, ma mère, elle me dit des fois, elle me dit, « Ouais, c'est bien intéressant ce que tu dis, mais j'amène ça d'une façon facile pour un homme de 78 ans. On parle de la mort, ben, faut pas que je l'énerve. »
Ouais.
Fait que, l'autre fois, elle me demandait, elle dit, « Ça existe-tu l'enfer? » Le curé dit que l'enfer, ça existe, puis il y a d'autres curés qui disent que l'enfer, c'est en terre. Bon, mais j'ai dit, ça dépend comment tu le regardes. J'ai dit, peut-être qu'il y en a deux. Il y en a un sans terre, puis il y en a un de l'autre bord. Fait qu'au lieu, il y en a deux. Si je dis qu'il n'y en a qu'un de l'autre bord, on ne voudra pas y aller l'autre bord. Fait qu'en disant qu'il y en a un ici, puis qu'il y en a un de l'autre bord, ça balance. Fait que tu amènes ça lentement comme ça. T'sais. Mais si je rentre dans mes gros canons occultes, puis le haut astral, puis le bas astral, puis ouais, donc, puis le centre de la Terre. Mais à ce moment-là, elle est faite. Elle ne dormira pas. Elle va prendre des pilules. Fait que c'est ça du respect. Faut que tu respectes les gens. Puis faut que tu puisses la contrôler. Puis tu vas la contrôler ou l'homme va la contrôler dans la mesure où il ne sentira pas qu'il y a quelque chose à prouver. Fait que pour répondre à votre question, le problème avec les gens qui parlent à d'autres de choses qui sont dans un sens occulte ou très intuitif, d'ordre psychique, le problème, c'est lié au fait qu'il y a encore en eux un sentiment, un besoin de prouver ce qu'ils disent ou d'avoir une réflexion de ce qu'ils disent pour se sécuriser eux-mêmes. C'est ça le problème.
Je vais aller plus loin dans la question. Est-ce que c'est possible pour une personne qui est en processus de développement de conscience de vivre avec un individu qui veut rien savoir d'un développement de conscience? De vivre avec, là, en couple, là, ou dans une maison. On parle entre autres des enfants. Donc les parents se conscientisent, mais les enfants, eux autres, ils veulent s'astraliser. C'est pas à peu près.
Si les enfants veulent, les parents sont intelligents puis qu'ils voient que les enfants veulent s'astraliser puis qu'il n'y a rien à faire avec eux autres, laissez-les vivre leur astralité. Peut-être que dans 4 ans, 5 ans, ils vont changer. Mais à votre question, il y a des antécédents. Si les enfants sont pas capables aujourd'hui de vous écouter dans un mouvement de langage créatif, c'est parce que vous avez pas créé les bases dans leur jeunesse. Moi, j'ai une fille de 18 ans avec laquelle j'ai des grandes conversations occultes, mais j'ai bâti ça depuis qu'elle est petite. Donc aujourd'hui, elle s'amuse, puis elle sort, puis elle a du fun, puis elle s'astralise, mais son esprit est disponible à être en harmonie avec le mien. Mais si je l'avais pas préparée de longue date, elle ne sera pas intéressée, elle sera intéressée avec au petit gars.
OK, mais pour la personne qui a commencé à développer...
Occupez-vous de vous autres, puis faites votre propre cheminement de vous autres, puis avec le temps, vos enfants, ils vont découvrir que vous avez pas mal d'allure. Là, vous n'avez pas d'allure encore, là, pour eux autres. Mais avec le temps, ils vont voir que vous avez pas mal d'allure, vous êtes pas mal fin, smart, intelligent, puis vous comprenez la situation. Si vous comprenez la situation parce que vous avez des corps sensibles pour vous équilibrer à leurs corps sensibles, éventuellement, vous allez pouvoir leur parler de ce que vous savez, puis ça va rentrer. Mais là, si vous arrivez après des séminaires, puis ce que vous commencez à lire des livres, ainsi de suite, avec vos gros canons, quand eux autres sont au niveau de Michael Jackson, puis le Prince, puis Heavy Metal, ben c'est évident qu'ils vont vous faire un peu. Ils vont dire, fais tes affaires, là, puis moi, je fais mes affaires. Fait que, il y a un temps pour ça. Ça prend un temps, ça prend une patience. C'est pour les couples.
Un des deux qui avance plus vite que l'autre, c'est-tu pas
ça? Il y en a toujours un qui est plus avancé que l'autre. Seulement, s'il avance trop vite, puis il veut faire avancer l'autre trop vite, l'autre va se casser une jambe. Fait que, c'est encore une affaire de rythme. La première chose qui compte, d'abord, c'est de vous occuper de l'autre sur un plan humain. Puis si vous occupez bien de l'autre sur un plan humain, à ce moment-là, l'autre va pouvoir s'intéresser à votre plan supra-humain. Et si vous n'êtes pas capable de vous occuper de l'autre sur un plan humain, autrement dit, de réaliser le manque d'intérêt qu'il y a pour ça pour le moment, de peut-être l'inquiétude ou la crainte qu'il y a pour ça pour le moment, à ce moment-là, ben vous allez entrer dans une phase de discordance. Il n'est pas prêt! Il n'est pas prêt, l'autre. Mais si il n'est pas prêt, puis vous autres, vous êtes prêt, puis vous êtes capable de retenir votre prêt, ben dans le temps, il va voir que vous êtes pas mal au bout, il va dire, qu'est-ce que c'est cette affaire-là, parlez-moi un petit peu. Mais non, c'est pas ça qui arrive. C'est qu'aussitôt que vous sortez d'un séminaire, là, vous arrivez à l'autre qui n'est pas prêt, puis vous voulez le rendre prêt. C'est pas du prêt-à-porter, ça, cette affaire-là.
Mais disons que c'est une femme là, qui a développé une certaine conscience, puis qu'elle est avec un homme.
Je vais vous dire une chose. Parlez-moi pas de conscience d'abord, parce que même que vous ayez de la spiritualité, que vous soyez en train de prendre conscience, autrement dit, sortir de certaines vapeurs, ça, je suis d'accord, mais. Quand vous serez conscient, vous serez même plus conscient d'être conscient. Vous serez plus intéressé d'être conscient. Vous direz plus au monde que vous êtes conscient. Vous direz plus au monde que vous êtes dans votre intelligence. Vous ne parlez plus de même. Fait que tant que vous dites au monde que vous êtes conscient, vous êtes dans votre intelligence parce que vous n'êtes pas conscient, fait qu'automatiquement, ceux qui vous entendent dire ça, ils veulent rien savoir de vous autres, c'est très normal. Je suis conscient. Je suis dans mon intelligence. Écoute-moi, là. Oh Dieu, tu m'as la marde. Ils ont raison. Je suis conscient. Ça veut dire quoi, ce « je suis conscient »
C'est parce que les gens se bâtissent un langage, puis à un certain moment...
Gardez-les votre langage pour ceux qui comprennent ce langage-là, puis ceux qui parlent allemand, bien, parlez allemand, puis ceux qui parlent français, parlez français. Mes vibrations, puis j'ai mes vibrations. Sont-tu bonnes tes vibrations aujourd'hui? Oui, elles sont bonnes, mes vibrations. Moi, je ne vais pas travailler pas trop aujourd'hui parce que j'ai pas de bonnes vibrations. Mais mange la merde, Chris, quand tu auras de bonnes vibrations, tu viendras travailler. Moi, tu crisses à la porte. Il fait bien, le patron. Parce qu'un jour, quand tu voudras travailler, puis le patron te dira, tu viens de travailler, tu vas dire, oui, patron, je vais travailler. Ou si tu es malade, tu vas dire, patron, je suis malade. Tu ne vas pas dire, j'ai pas de bonnes vibrations aujourd'hui. Si ton patron est conscient, il va te parler de vibrations, vous allez vous entendre. Mais si c'est un gars normal, autrement dit, anormal, mais à ce moment-là, ben, il va te parler de vibrations. Voyons. Parler le même langage. C'est évident qu'en devenant conscient, on développe un langage qui est plutôt ésotérique. Mais garde ça pour les ésotériques. Ne va pas parler de ça à ta belle-mère. Voyons. Vibrations.
Mais.
Frère.
Comme ça, Bernard. Les célibataires qui se donnent comme prétexte que les gens sont pas nécessairement pas à la hauteur, mais n'ont pas le même niveau de communication, c'est une illusion, ça. Tu sais, les gens qui sont célibataires, qui rencontrent quelqu'un, puis qui pourraient Ça pourrait fonctionner, ces deux-là, mais la personne qui se dit, entre guillemets, conscient, là, avec ce que vous venez de dire, je fais attention. C'est une illusion, ça.
Ouais, les gens qui se disent conscients et qui demandent s'ils bataillent parce qu'ils sont trop conscients, ils ont des gros problèmes de conscience.
Ouais. C'est une façon pour bien des gens de s'isoler, ça.
C'est une façon pour. Ça fait partie des illusions.
Mais qu'est-ce qui peut faire qu'un individu qui rentre dans un processus, entre guillemets, d'instruction de conscience, en vient à vouloir s'isoler dans un langage, à vouloir se sentir absolument différent de la masse? Qu'est-ce qui fait ça? C'est quoi? C'est de l'orgueil?
C'est parce qu'il y a des intuitions, il y a des perceptions qui sont différentes de celles de la masse. Mais il faut qu'on arrive à les intégrer, ces affaires-là. Sans ça, il devient marginal. Il se coupe du monde. Comme la fille, elle dit, ben moi, je veux rencontrer un gars qui est mental. Ou le gars, il veut dire, je veux rencontrer une femme qui est mental. Un gars, une femme mental, tu peux t'ennuyer. Bon. Rencontre une femme d'abord. Commence d'abord par rencontrer une femme. Non, il y en a une mental.
J'avais l'impression que tes femmes cherchaient des hommes mentaux.
Ça, c'est tout du porte-manteau. J'en entends des conversations des fois. Le gars, il rencontre une fille à bord, il dit, t'es-tu conscient? Mais l'autre, il répond, je dors pas. Je suis conscient. C'est vrai, hein?
Mais avant, il demandait le signe astrologique, c'était pas mieux.
Ouais, bon, moi, ça fait partie des conversations banales. Parce que les gens sont pas assez créatifs. C'est quoi ton signe? C'est un cochon. Moi, quelqu'un qui me demandera qu'est-ce que c'est mon signe, j'ai en sorti un ratiteur, hippopotame, n'importe quoi.
Mais, ouais.
Il vous dirait, fais pas le coq. C'est effrayant.
Mais, c'est difficile de venir au sérieux. Dans les conditions où les gens, disons, vivent, évidemment, avec une base d'inconscience, c'est réel. On peut être dans un milieu qu'on sent inconscient. Puis là-dessus, là, faut se le donner. Là. Il y a des environnements maintenant que vraiment.
Il y a des environnements inconscients, c'est normal. On vit d'une planète d'une civilisation évolutive, c'est normal. Par contre, il y a des gens dans le monde qui sont très, très intéressants, qui sont inconscients, mais qui sont très sensibles.
Ouais.
Il y a des gens dans le monde, c'est plein de gens dans le monde qui sont. Il y a des patrons, il y a du monde qui sont des gens normaux, inconscients, mais qui sont sensibles, des gens équilibrés, des gens bon, des bons travailleurs, des gens qui sont généreux, hein, whatever. Mais la conscience, c'est un autre pain de manche. Puis la conscience, l'homme vient à la conscience individuellement. Mais si tu commences à te couper du monde parce que t'es conscient, t'es fait à l'os. C'est fait.
Oui, mais il y a des milieux que vous n'êtes plus capable de fréquenter à cause de...
Il y a des milieux que tu ne fréquentes plus. Il y a des milieux que tu ne fréquentes plus, mais tu t'es créé dans ce processus-là des milieux que tu fréquentes. Mm. Mais ça ne t'empêche pas d'aller dans ces milieux. Bon, pour répondre à votre question, parce que je sais que c'est une question qui touche à beaucoup de gens. Si quelqu'un m'invitait et disait, bon, ben Bernard, je t'invite, souvent je rencontre un homme d'affaires. Puis il me disait, bon, ben, je t'invite à prendre un drink d'un club un soir. Je vais y aller. Mm. Penses-tu que je vais dire, je suis conscient, je ne vais pas dans ces places-là? Je vais y aller. Mm. Je vais prendre un petit verre de vin. Je vais prendre même, peut-être prendre un scotch avec de l'eau. Puis je vais y parler, puis on va parler d'affaires. Mais si je commence à dire, ah, ben, moi, je suis conscient, je ne vais pas dans un club, puis je suis conscient, puis je fais possible, le gars, il va dire, bon, ben, reste là, laisse faire, là, Je peux pas faire ça. Ça, c'est de la marginalité. Ça, c'est comme les gens qui disent, ah ben moi, je mange pas de viande. Donc, tu t'en vas dans un gros party, il y a une de la viande, mange pas. Donc, on va lui donner un tout de pique. Il est pas capable, là, un soir, manger de la viande. C'est encore des illusions. On est plein de même. On est du stock. On est bien conscient.
Êtes-vous capable?
Seriez-vous capable? Moi, j'appelle ça conscient. On est conscient.
Oui. Mais sérieusement, seriez-vous capable d'être dans un environnement, là, j'essaie de l'imaginer le plus aristocratique possible, à force de rire, on finit qu'on se désarticule. Et puis de rester vraiment anonyme, là. J'essaie, moi, dans ma tête, de voir là, dans un milieu là, de gens, là, tu sais, avec le petit doigt sa tasse de café. Là.
Mais t'es obligé d'être anonyme.
Ouais, mais combien d'heures que vous seriez capable de
aussi longtemps que je veux. Ouais. Seulement la chose qui arrive, c'est que quand une conscience, tu t'en vas dans un milieu huppé, comme vous dites, déjà, si tu y vas, c'est parce que tu as des raisons. Si tu y vas, tu as des raisons. Peut-être que tu y vas pour rencontrer une personne,
ouais.
Mais tu as des raisons. Tu y vas toujours pour des raisons.
Okay.
Moi, je peux pas aller quelque part sans raison. Donc, j'y vais pour des raisons. Puis à ce moment-là, mais s'il y a une personne que je dois rencontrer dans 25, je vais rencontrer la personne, puis je vais l'isoler des 25, mais les autres, ça va pas m'empêcher de parler de la pluie, puis du beau temps, ou de la politique, ou de l'inflation avec eux autres. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. C'est l'autre personne qui m'intéresse. Fait que tu te mélanges, puis tu es anonyme, c'est très intéressant, c'est très valable. Je suis allé en France dernièrement, je rencontre des gens intéressants, mais j'ai pas besoin de le compter ma vie. Puis il y a des gens, mais tu vas plus loin parce qu'ils sont prêts. Tu vas là justement parce qu'ils sont prêts. Mais il faut que tu la contrôles, cette énergie-là, sans ça, mais c'est elle qui te contrôle. Là, tu deviens marginal.
Donc, c'est une illusion de penser qu'on peut souffrir de manquer d'échange avec un environnement quelconque. De la façon que vous parlez, on pourrait échanger dans n'importe quel pays.
Dans n'importe quel environnement. J'ai rencontré un homme en avion quand je suis revenu de France, un PDG d'une compagnie européenne, pour nous parler de la politique japonaise et l'influence du Japon sur l'économie occidentale. Je suis pas allé dans mes grosses patentes occultes là, concernant la fonction du Japon dans l'évolution de la race humaine, ainsi de suite. Je suis resté ça bien terre à terre. Puis il a trouvé ça bien intéressant. On a eu du fun, puis j'ai dit, alors quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai dit, je vais vous donner mon numéro de téléphone, mais on pourra se prendre un petit café ici à Montréal, puis quand vous serez à Paris, ben, je vous redonnerai un petit coup de téléphone, puis on ira manger chez Procop. Mm. Ben, fait que c'est le fun, c'est intéressant. Si le type, pour une raison que je serais, pourrait être amené plus loin dans le discours au cours des mois ou des années, bon, j'irai plus loin, puis si ça s'arrête là, ben j'arrête là. Mais au moins, je peux échanger avec lui. On a échangé au niveau de la politique française, on a échangé au niveau du nouveau premier ministre, Edith Cresson, puis sa relation avec, ou ses idées sur le Japon, et ça a été très intéressant. Fait que, tu peux pas rester pogné, accroché dans tout le côté occulte de la conscience. Sans ça, tu vas avoir très peu de chum.
Mm-hmm.
Fait que c'est un système d'élévateur. Faut que tu montes au 7e, faut que tu descendes au rez-de-chaussée. Si t'es pas capable de faire le mouvement d'élévateur, mais tu vas rester pogné au 7e, puis laisse-moi te dire, tu voyageras pas bien gros.
Mais comment est-ce que vous faites pour savoir que vous pouvez aller jusqu'à un certain niveau?
Ça, c'est vibratoire.
Tu le sais.
C'est vibratoire. Tu le sais.
Puis la personne sais-tu qu'elle ne peut pas aller jusqu'à un certain niveau?
Je vous donne un exemple. Souvent, les gens vont me dire, bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Là, ça dépend de ce que je fais encore. Des fois, elle m'a fait mon niaiseux, je vais dire, je suis un chauffeur de taxi. Puis, là, c'est parce que si je dis que je suis un chauffeur de taxi, c'est parce que la conversation ne va pas durer longtemps, nous autres. Bon. Ou je vais dire, je t'écrivais. Mais si je dévoile, plus tu dévoiles, mais plus tu es obligé de répondre à leurs questions, parce qu'ils vont avoir des questions. Qu'est-ce que vous écrivez? Bon, ben, je vais dire, j'écris ça par la parapsychologie. Pour me donner quelque chose, d'accord. Bon. Ah, ben, ça fascine tout le monde, la parapsychologie. J'ai jamais rencontré personne qui n'est pas intéressé à la parapsychologie, surtout en Europe. Bon, à la parapsychologie. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, ben, là, peut-être qu'il va, le gars, il va dire, qu'est-ce que c'est votre signe? Ou ça m'intéresse? Ou j'ai lu un livre sur Life After Death. Fait que là, tu vois qu'il y a un petit filet. Un gars qui a lu La vie après la mort, ben là, tu peux commencer à aller un petit peu plus loin. Quelqu'un même qui s'intéresse à l'astrologie, tu peux aller un petit peu plus loin. Mais si le gars, il dit, oh, la parapsychologie, ça, c'est je crois, tu parles du smoke meat, t'arrêtes là. T'sais? Ça fait que c'est comme ça que ça marche, tu le sais.
Fait que tout est vibratoire.
Tout est vibratoire. Des fois, je vais leur dire, ben, je suis président de conseil d'un certain nombre de sociétés. Fait que là, ben, ça va le situer par rapport à moi en tant que businessman. Puis si je vais aller plus loin, ben, je vais dire, ben, j'ai un petit hobby, j'écris des livres en parapsychologie. Ah, vous avez écrit là, ça là. Fait que ça va se développer. Fait que peut-être que c'est un homme d'affaires, un PDG qui s'intéresse aussi à ça. Parce que tout le monde a eu des expériences dans la vie. Fait que c'est comme ça que ça marche.
Mais je comprends bien. L'individu qui est sûr de lui, il peut se créer les personnages qu'il veut selon les événements.
Créer les personnages que tu as besoin pour créer un buffer. Tu peux pas arriver à dire, je suis Bernard de Montréal. Fait que tu te crées des personnages. Fait qu'éventuellement,
Tu vas te créer des personnages en fonction de ton environnement humain. Fait que là, tu respectes l'autre, tu respectes la dimension de l'autre, puis tes personnages te permettent de rentrer dans... De rentrer dans un processus créatif avec eux autres. Sans ça, ben là, c'est too much.
Bon, ça, c'est le côté où vous respectez les autres.
Oui.
Par contre, on est placé souvent dans des situations où l'environnement ne nous respecte pas. Et puis, comment, disons, quand on parle de souffrir de l'astral, comment qu'on peut se délivrer de cette inconscience qui est manifestée à notre égard, là, disons, parce qu'on devient plus sensible, ça, je pense que là-dessus, on s'entend. On devient plus sensible à certaines choses, et puis c'est vraiment une forme de petite névrose, là, qui peut ne pas être perceptible chez l'autre. Comment vous protégez contre un excès d'astralité venant de la. Ou un excès d'inconscience, ou un excès de comportement? Vous coupez, vous.
Mais ça dépend des centres de gravité. Plus on a un centre de gravité développé, moins l'environnement nous affecte. Si on n'a pas de centre de gravité, l'environnement nous affecte. Les gens qui sont très, très sensibles, excusez-moi, comme des fleurs, qui n'ont pas de centre de gravité, c'est des gens qui sont susceptibles d'être détruits facilement dans certaines situations de vie. Alors, il faut développer des centres de gravité. Puis développer des centres de gravité, ça veut dire en arriver, avec le temps, à éliminer de notre conscience psychologique la fameuse insécurité de l'ego, qui est basée sur une déformation psychique de l'être, qui est causée par une mauvaise éducation, qui est causée par l'influence de toutes les formes de la conscience sociale civilisée. Donc, éventuellement, on développe. Pour qu'un être humain ne peut pas se permettre de ne pas sentir qu'il n'est pas intelligent. Si l'être humain n'est pas capable de sentir qu'il est intelligent, qui n'est pas capable de voir qu'il est intelligent, qui n'est pas capable d'admettre qu'il est intelligent, à ce moment-là, il n'y a pas de centre de gravité. Évidemment, il y a des gens qui vont venir puis qui vont contester ou qui vont créer un dialogue qui va faire en sorte qu'ils vont mettre en écharpe votre intelligence. Mais si, puis ça va vous amener à développer encore plus un centre de gravité, puis plus un centre de gravité. Un être humain, quel que soit l'être humain, de quelque pays qu'il vienne, doit sentir qu'il est intelligent. Alors, pour des êtres humains, il y a des êtres humains, bon, pour vous donner l'exemple, sur l'échelle de l'évolution, si on prend des Haïtiens, par exemple, il y a des Haïtiens qui, pour eux autres, leur self-respect, c'est au niveau de leur la dignité qu'ils ont par rapport à eux-mêmes et qu'ils veulent que les autres respectent. C'est très fort avec eux autres, ça. Bon, mais ça fait partie déjà d'une certaine conscience. Quand on tombe dans des étapes plus évoluées de la conscience humaine, comme dans un monde occidental, où on est allé à l'école, on a pris des cours, on a une certaine éducation, une certaine formation, qu'on a une certaine sensibilité, il n'y a pas de raison que l'homme moderne d'aujourd'hui ne sente pas son intelligence, qui est intelligent. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de centre de gravité. Une fois qu'il y a ça, puis qu'il en prend conscience, à ce moment-là, ben ça se dans la lutte avec l'extérieur, que j'admets, éventuellement, ça va devenir plus fort, plus fort. Parce que faut que l'homme en arrive à détruire le doute de son impuissance. Faut que l'homme en arrive éventuellement, l'homme conscient en arrivera éventuellement à vivre ou à connaître ou à reconnaître chez lui ce que j'appelle la suprématie psychologique. La suprématie psychologique, c'est la capacité mentale de l'homme d'atteindre un niveau de conscience suffisamment intégré pour ne plus être bousculable de l'extérieur, quels que soient les forces. Donc, tu peux pas empêcher le monde. Bon, on va prendre des politiciens, par exemple. Bon, surtout, disons, aux États-Unis. Un politicien aux États-Unis, s'il veut demeurer dans la course, il faut qu'il puisse être conscient de son intelligence et aussi développer des buffers contre la conscience ou l'agressivité des masses autour de lui. Sans ça, il fonctionnera jamais, le gars. C'est un métier qui est très difficile à être politicien parce qu'on est toujours en conflit avec multiples sources de mentalités qui sont contre nos perceptions. Donc, il faut des centres de gravité, puis un politicien, ça a certains centres de gravité. Alors, l'homme, c'est la même chose. L'homme qui se conscientise, il faut qu'il développe des centres de gravité, sinon sa sensibilité ne sera pas suffisante pour l'amener à aller plus loin dans l'évolution de sa conscience, puis dans le développement de son mental. Être sensible, c'est passé. Être sensible, c'est une qualité de l'âme. Ce n'est pas un attribut de l'esprit.
C'est une qualité de l'âme. Donc, d'accord, c'est une belle qualité de l'âme, mais elle a son côté négatif. Ça fait partie des vertus et des défauts. Il y a des gens qui ont trop de sensibilité, c'est à fleur de peau. Si moindrement sont attaqués, ils sont tellement fragiles, ils craquent. Tu peux rien faire avec ça. Il faut que cette sensibilité-là, qui est dans le fond une sensiblerie, soit transmutée pour que ça devienne une grande sensibilité, une belle sensibilité, mais une forte présence de son esprit à travers une qualité d'âme qu'on appelle la sensibilité. À ce moment-là, ça devient une arme, mais qui a deux tranchants, qui te permet d'ouvrir des portes, qui te permet d'enfermer des portes. Moi, j'ai une grande sensibilité, je suis capable d'ouvrir des portes, je suis capable de fermer des portes. À ce moment-là, je ne souffre pas de l'extérieur. Mais c'est ça que l'homme doit développer. Il doit en arriver à ne pas souffrir pour rien à cause de sa grande sensibilité de l'extérieur. Donc, ce qui va arriver, c'est que dans la lutte entre son ego en évolution puis les égos inconscients, philistins à l'extérieur, il va vivre un certain doute de son intelligence, un certain doute de sa sensibilité, un certain doute de ses perceptions. Puis avec le temps, il va les éteindre. Puis un jour, il n'a plus de doute par rapport. Ça, c'est de la conscience.
Bon, le terrain dans lequel on développe les centres de gravité, est-ce que c'est en relation avec les résultats qu'on atteint ou c'est simplement dans les situations d'obstacles ou d'obstructions dans lesquelles on est plongé?
Non, donc, il y a pas de résultat. Les centres de gravité se créent instantanément en situation. C'est en situation que vous développez un centre de gravité.
Indépendamment du résultat.
Je vous donne un exemple difficile, là, pénible. Là. Vous êtes une mère, vous avez un fils. Votre fils se fait frapper par une automobile, il meurt. C'est là le temps de développer un centre de gravité. Savoir que ça va sur un autre plan. C'est plus lui qui a le problème, là. Lui, il est sur un autre plan. Toi, t'es dans la chair, t'es sur le plan matériel, tu dois continuer à vivre, même avec sa mémoire, avec sa peine. C'est là que tu développes un centre de gravité.
C'est indépendant du résultat.
C'est en situation qu'on développe un centre de gravité. C'est dans la situation qu'on développe un centre de gravité. Il se produit toutes sortes de choses. On a une myriade d'occasions de développer un centre de gravité tous les jours.
On n'a pas besoin de rechercher.
Ah non. Rechercher rien. La vie est pleine de merde. Cherchez-en pas d'autres. Vous allez devenir des spécialistes de l'emmerdement. Non, il y en a assez. La vie, elle est difficile. Elle est faite pour ça parce que la Terre, c'est une école.
Oui, c'est vrai.
Sans ça, vous allez devenir des masochistes. Puis là, vous allez réellement basculer. Non. La vie, elle est faite pour être difficile. Elle est programmée pour être difficile. Chaque être humain est programmé. Ça fait partie de vos horoscopes. Ça fait partie de vos thèmes astrologiques. Puis à l'intérieur de cette programmation-là, si l'homme est conscient, si l'homme se conscientise, si l'homme commence à voir à travers toutes les sciences qu'on a aujourd'hui comment ça fonctionne, à ce moment-là, vous développez des centres de gravité, puis un jour, l'homme en arrivera à ne plus être violable par la vie. Là, il sera libre, l'homme aura conscience de sa destinée, l'homme saura ce qui s'en va, l'homme contrôlera son énergie, l'homme sera plus influençable de l'extérieur, l'homme sera totalement créatif, il sera plus marginal, il sera original dans sa conscience. Il sera dans une conscience de fusion. Il sera dans une conscience supramentale, autrement dit, plus élevée en vibration que le mental inférieur de l'intellect. C'est ça l'évolution de l'âme. Mais c'est en situation que ça se crée.
OK, on parle de lucidité. Est-ce qu'une personne, c'est intelligent d'éviter d'être mis en situation?
D'éviter d'être mis en situation?
Ben, on parle des fois d'être lucide.
Tu ne te mets pas en situation. C'est évident que tu ne te mets pas toi-même en situation. Une personne qui se mettrait en situation pour se tester, pour voir si elle a des centres de gravité, ce serait une personne qui serait réellement ridicule.
Ah non, mais il lui est proposé par les événements une mise en situation. La personne voit qu'il lui est proposé une sorte de test, ni plus ni moins. Est-ce que c'est une preuve de lucidité d'éviter la mise en situation?
Évidemment.
Donc, est-ce que être lucide, ça présuppose déjà un centre de gravité?
Être lucide, c'est avoir développé un centre de gravité.
Donc, ce qu'on évite comme problème dans la vie est fondé sur un acquis de centre de gravité.
Quoi?
Les problèmes qu'on évite dans...
Les problèmes qu'on évite sont basés sur un certain niveau de discernement.
Qui est fondé sur un centre de gravité?
Qui demande un certain centre de gravité, oui.
Donc, on peut mesurer notre centre de gravité sur
par rapport
les problèmes
au discernement qu'on a puis les problèmes qu'on évite, oui.
OK.
Oui. Les gens là, qui sont toujours dans la merde, qui se mettent toujours les pieds dans les plats, c'est des gens qui n'ont pas de centre de gravité.
Bon.
Parce que quand une personne se met les pieds dans les plats une fois, d'accord, no problem. Mais deux fois, puis trois fois, là, c'est de la connerie. OK. Tu n'as pas l'expérience de l'affaire, tu t'en prends une mesure, tu l'ajustes. Non.
Après ça, il y a une autre affaire qui va venir. Tu l'as juste. Fait qu'éventuellement, tu deviens tellement habitué instantanément de mettre de l'ordre dans ta vie, puis de l'ordre dans ta vie, qu'éventuellement, ta vie devient un ordre nouveau.
Mm-hmm.
À ce moment-là, tu es lucide, la vie, tu es bien dans ta peau, puis il peut rien se produire que tu ne peux pas. Le mot, j'ai un terme anglais que tu ne peux pas handler. There's nothing you can do that you can handle. Ta fille meurt, t'es encore régi par les lois d'accident. Tu peux avoir des accidents, tu peux se poser des affaires, mais tu ne vas pas casser. Puis tu vas encore développer des centres de gravité. Puis tu vas encore développer ton centre de gravité. Donc c'est comme ça que ça marche. Parce que l'évolution et le développement de la conscience supramentale, ça n'a pas de fin. Autrement dit, même quand l'homme sera arrivé à un point où il devra lâcher son corps matériel, quand il sortira de son corps matériel, il passera directement au plein intellect. Donc ça n'a pas de fin, cette affaire-là. Mais pour... Tant que l'homme est dans la matière, il faut qu'il apprenne à utiliser toutes les expériences, tout ce qui se passe au niveau événementiel, et le transmuter sur place. Ça, ça développe des centres de gravité, ça l'amène à un grand discernement, ça l'amène éventuellement à la lucidité, ça l'amène à l'intégration de son énergie, puis à un haut niveau de fusion, à un haut niveau d'intelligence créative. C'est ça le but de l'évolution future de l'homme.
OK, donc une première fois dans une expérience qui n'est pas connue, c'est ça une mise en situation.
C'est normal.
Mais... Deux, trois, quatre fois, là, ça devient un manque de lucidité.
C'est un manque de discernement. Vous ne parlez pas de lucidité, ça n'existe même pas à ce niveau-là. Puis il va venir un point, il viendra un point où un événement viendra, puis l'homme saura instantanément s'il doit aller par là ou par là. Mm-hmm. Il n'y aura même plus besoin de vivre d'expérience. Mm-hmm. Si vous me demandiez qu'est-ce que c'est être lucide, je vous dirais que être lucide, c'est de ne plus vivre sur la terre d'expérience. C'est de vivre simplement de conscience créative. L'homme en arrivera à ne plus vivre d'expérience. En attendant, l'homme vit d'expérience. Donc, à l'intérieur de ça, il développe du discernement. Il développe ses centres de gravité. C'est la chose la plus importante pour l'homme de développer les centres de gravité. C'est pas tellement la conscience occulte, les connaissances occultes de l'invisible. C'est pas ça qui compte. C'est sa capacité sur le plan humain, dans son enveloppe matérielle, dans son enveloppe charnelle, de pouvoir dealer émotivement avec la vie tout le temps, pour en arriver à avoir un mental clair tout le temps, parce que des problèmes, ça n'existe pas. Ce sont des illusions qui sont créées dans notre conscience astrale pour perturber notre énergie, pour voir si on est capable d'aller plus loin. Puis ça fait partie de l'expérience de l'âme, mais ça ne fait pas partie du mouvement de l'esprit.
Un centre de gravité, là, est-ce que ça peut être manipulé par un homme? Est-ce que vous, là, avec votre centre de gravité, vous pourriez être manipulé par une personne, par exemple, qui a beaucoup de pouvoir économique ou beaucoup de pouvoir politique?
Si l'homme a un centre de gravité très développé, il a une conscience très lucide, il ne peut pas être manipulé.
Même si quelqu'un qui vous identifie comme étant, exemple, il veut travailler avec vous absolument, puis il a les moyens de le faire, là. Il ne peut pas vous l'imposer.
Non, parce que par vibration, un homme qui a une conscience, que des centres de gravité très développés pour percevoir, il devient très voyant au niveau de l'énergie des autres. Donc, même s'il rencontre une personne qui a, comme vous dites, les moyens pour travailler avec lui, s'il ne sait pas, parce que là, tu es rendu dans le savoir, s'il ne sait pas que la personne a de l'esprit, il va couper. Un homme conscient ne peut pas travailler avec une personne qui n'a pas d'esprit. C'est l'esprit qui compte. Parce qu'avec de l'esprit, tu peux faire énormément de choses. Ça n'a plus de fin, ça crée une alliance qui n'a plus de fin. Tandis que si une personne a simplement des moyens matériaux, mais qui n'a pas d'esprit, il y a une finalité à ça.
Okay.
Donc, non. Un être conscient, un être lucide, c'est pas influençable. Ni intérieurement, ni extérieurement.
Donc, c'est pas du pouvoir, un centre de gravité, c'est vraiment une vibration, la façon.
Un centre de gravité, c'est la cristallisation de l'énergie dans certains points stratégiques du corps que vous autres vous appelez des glandes.
Okay.
Puis c'est par ces centres-là que passe l'énergie occulte des plans. Et je vous donne, quand vous avez un accident, supposons que la femme appelle son petit gars, il y a une nouvelle qui vient au téléphone, le plexus solaire qui vibre. C'est un centre d'énergie, le plexus solaire. Si la personne a un certain centre de gravité, ça va vibrer moins, ça va pouvoir le prendre, elle va le prendre mieux. Si la personne a un centre de gravité très très développé, ça ne vibrera même pas ça.
cette affaire-là. Parce qu'elle va être très, très lucide de ce qui se passe. Elle ne mettra plus d'émotion dans son mental. C'est ça le centre de gravité. Et c'est ça qui est le plus important pour l'être humain. C'est pas tellement la connaissance. La connaissance occulte, ça fait partie de la pénétration de l'esprit de l'homme dans les mondes invisibles. Mais ce que l'homme sur la Terre a besoin, ce sont des centres de gravité suffisamment développés pour qu'il ne soit pas toujours perturbé dans sa vie. Tu perds ta job, tu vas en trouver un autre. Tu peux pas payer ton téléphone. Ta belle-mère va mourir, elle va te laisser 10 piastres, tu le sais pas encore, tu sais. Yeah. Fait que la vie, ça continue.